Disons. Est toujours cool.
RT Cool.
Retenez bien ce nom.
Une blague.
Un sourire.
De quoi se marrer.
Salut Maya.
Coucou Saba.
Hier, je suis passée devant un café et j'ai entendu deux dames discuter.
Pour ma part, je n'ai qu'un enfant.
Ah bon? Et comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Caillou.
Mais Caillou n'est pas un prénom.
Enfin, vous avez bien appelé le vôtre Pierre. Figure-toi que j'ai suivi une autre conversation entre deux bébés. T'es une fille ou un garçon?
Je suis une petite fille, et toi?
Moi, je ne sais pas.
Baisse ton drap, je vais te dire ce que tu es. Baisse plus bas, je ne vois pas. Oh ben, t'es un petit garçon, t'as des chaussons bleus.
Au revoir, Saba.
Partons en voyage.
Ok, mais on va où?
En Argentine.
Dis, Elsa, peux-tu me donner quelques informations sur l'Argentine? Car je vais y aller avec une amie, mais je n'aimerais pas lui fournir de faux renseignements.
Bien sûr, Marianne. L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud. En 1516, l'Espagnol Juan Díaz de Solís découvre le Rio de la Plata. L'Argentine devient alors une colonie espagnole dont les richesses sont produites pour le bénéfice du roi d'Espagne via l'utilisation d'esclaves. Les esclaves sont amenés d'Afrique pour servir en Argentine. Avec la révolution de mai, le 25 mai 1810, les Argentins deviennent indépendants. Le 1er mai 1853, ils déclarent la fin de l'esclavage. L'histoire politique de l'Argentine est une succession de crises politiques avec dictature militaire, coup d'État, pillage et émeutes.
Moi, je connais le drapeau argentin. Il a deux bandes bleues entourant une bande blanche horizontale. Les bandes font référence aux cocardes de la même couleur distribuées le 25 mai 1810 lors du début de la guerre d'indépendance. Un soleil dit « Sol de Mayo » brille au milieu de la bande blanche. La monnaie de l'Argentine est le peso argentin.
Juste dans les années 1950, l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde, juste devant la France. Depuis les années 80, l'histoire économique de l'Argentine est une succession de crises économiques avec beaucoup de pauvres, de l'argent qui ne vaut plus rien, des pillages et des émeutes.
L'Argentine compte 43 millions d'habitants. Les Amérindiens représentent 1,5% de la population. Ils étaient là avant l'arrivée des Espagnols. Les descendants des Africains représentent 0,4% de la population. Leurs ancêtres ont été amenés en tant qu'esclaves à l'époque espagnole. Les descendants européens constituent le reste de la population. Il s'agit surtout de populations d'origine espagnole ou italienne. Un tiers de la population est concentré dans la capitale de Buenos Aires.
Le pays est très grand et tout en longueur. Il y a beaucoup de différences d'altitude, de moins 100 mètres au-dessous du niveau de la mer à 7000 mètres. Il y a donc beaucoup de climats différents. Les géographes découpent le pays en 5 grandes zones géographiques. Les pampas, ce sont des plaines au climat tempéré. Le Grand Chaco, c'est la région d'élevage de bétail et de la culture du coton. La Mésopotamie, ce territoire se trouve entre la Rio Paraná et le Rio Uruguay. Les rios sont des grands fleuves. Le climat est tropical. La Patagonie, c'est une zone de steppe au climat aride.
L'espagnol est la langue officielle. Des indigènes parlent encore des langues amérindiennes, telles que la langue quechua dans les Andes. Le catholicisme est la religion d'État. Plus de 70% de la population est chrétienne catholique.
Le maté est une boisson semblable au café ou au thé. Le maté est consommé chaud. Il a un goût fort et amer. On le prépare avec des feuilles de yerba maté. Cette boisson traditionnelle symbolise la fraternité et l'hospitalité des gauchos, les garçons vachés argentins.
Un grand merci Elsa. D'ailleurs, j'hésite à t'inviter en Argentine. Peux-tu venir avec moi ?
Oh oui Marianne, avec grand plaisir.
Salut, c'était Marianne et Elsa sur RT Cool.
Avec la bonne idée de RT Cool,
facilitez-vous la vie.
Salut Charline, tu sais qu'aujourd'hui on fait la bonne idée ensemble ?
Je sais, d'ailleurs j'en ai une. Pour avoir les dents blanches, il faut les brosser avec du citron.
Mais Charline, vu que le citron est acide, si tu te brosses les dents avec, ça risque d'abîmer ton émail.
Mais je sais, c'était une blague.
Moi par contre, j'en ai une vraie. Si seules quelques gouttes de jus de citron
ou de jus d'orange
vous sont nécessaires, inutile de couper le fruit en deux. Percez un petit trou dans l'écorce, pressez et rebouchez le trou avec un cure-dent.
Tididi, tididi, tididi.
Allô mamie, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai essayé votre première idée, mais mes dents ne sont pas blanches, mais jaunes.
Pardon mamie, c'était une blague.
Mais pour nous faire pardonner, nous allons te donner une autre idée.
Et une vraie ce coup-ci. Pour lire tes recettes de cuisine, tu peux attacher le livre à un cintre avec des pinces à linge et l'accrocher à une poignée de placard de cuisine.
Au revoir et à bientôt pour une nouvelle bonne idée
sur RT Cool.
De la préhistoire
à hier soir,
allons voir notre ami
George Sand.
Bonsoir maman, j'ai un exposé demain sur George Sand. J'ai déjà plein d'informations sur elle, mais j'ai l'impression que je n'en lis pas assez. Je sais déjà que c'est une femme écrivaine qui s'appelait en réalité Aurore Dupin, qu'elle est née en 1804, qu'elle a étudié à Paris à 13 ans au couvent des Augustines anglaises, qu'elle a été l'épouse du baron Dudevant avec qui elle eut deux enfants, qu'elle a collaboré avec Jules Sandeau, qu'elle fut l'amie d'Alfred de Musset, de Michel de Bourges, et qu'elle se lia d'amour avec Chopin, avec qui elle décida d'aller vivre à Majorque.
Bon Célia, tu as oublié qu'Aurore Dupin, lorsqu'elle avait été enfermée durant 3 ans à Paris, au couvent des Augustines, fit une profonde crise de mysticisme. Les livres de Rousseau l'enthousiasmaient, ses enfants s'appelaient Maurice et Solange, elle décida de vivre à Paris de ses talents littéraires dans lesquels elle exprimait ses sentiments. Elle fut initiée à la politique par l'avocat Michel de Bourges et participa à la révolution de 1848. Lorsque la réaction triompha, elle se réfugia à Nohant où elle écrivit des romans champêtres. À sa mort en 1876, elle laissa une œuvre considérable de contes qui compte plus de 70 romans et 50 volumes d'œuvres diverses.
Merci maman. Avec ça, si je n'ai pas un 20 sur 20, je n'y comprends plus rien.
Au revoir et à bientôt. C'était Mégane.
Et Célia pour votre leçon d'histoire de la semaine.
Les professeurs Maboul d'RT Cool déboulent.
Salut Clément.
Salut Skander.
Comment ça va Clément ?
Pas très bien, en voulant débrancher mon ordinateur, je me suis pris une décharge électrique.
Quand on reçoit une décharge électrique, on est violemment projeté en arrière.
D'où vient cette force ?
L'électricité n'exerce pas de force par elle-même. La force provient de nos propres muscles.
Quand un fort courant électrique traverse notre corps, nos muscles se contractent violemment, et souvent bien plus violemment que nous pouvons le faire volontairement.
Ordinairement, notre corps limite le nombre des fibres musculaires qui se contractent simultanément. Une situation de stress peut accroître ce nombre, augmentant la puissance musculaire disponible ainsi que le risque de blessure.
C'est cette force très particulière qui a permis à des mères de soulever la voiture sous laquelle leur bébé était coincé, ou à des psychotiques d'échapper par la force à plusieurs infirmiers. Un psychotique est une personne atteinte d'une psychose. c'est-à-dire d'un trouble grave et durable de la personnalité.
Quand les muscles sont stimulés par un courant électrique, ces limites naturelles ne s'appliquent plus et les contractions peuvent devenir très violentes. Comme les décharges électriques parcourent généralement un bras, l'abdomen, puis une ou les deux jambes, de nombreux muscles se contractent simultanément.
Les résultats sont imprévisibles, mais les muscles des jambes et du dos étant spécialement puissants, la victime peut fort bien traverser la pièce de façon totalement involontaire. Ajouté à la commotion de l'électrocution, cela donne l'impression de recevoir un choc violent plutôt que d'en être la source. Une commotion est une violente émotion.
Au revoir, c'était Skander
et Clément sur RT Cool.
Salam.
Buona dia.
Buongiorno.
Mira.
Guten Tag.
Shalom.
Aloha.
Bon dia.
Gunaiden.
Hello. Bonjour.
C'est le moment de la phrase en...
Croate et polonais.
Salut Amandine.
Salut Gabin.
Mon papy et ma mamie sont partis en Croatie l'été dernier. Et à leur retour, ils m'ont appris quelques mots en croate.
Je voulais partir en Croatie, mais je ne sais pas comment dire. Il y a-t-il une boulangerie dans le coin, s'il vous plaît?
On dit « Imali pekara ublidzini molim vase ». Pour le remercier, tu diras « Voilà ».
Yennego hleba prochain.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire « Un pain, s'il vous plaît », mais en polonais. Au revoir.
Do widzenia.
Reportage,
ça vous en apprendra davantage,
même à votre âge.
Le reportage,
ça vous en apprendra davantage,
même à votre âge.
Bonjour, c'est Mohamed sur RT Cool. Vous allez écouter mon reportage. J'espère qu'il va vous plaire.
Est-ce que ton travail est difficile?
Mon travail est difficile. Bon, c'est pas question qu'elle est difficile, elle est pénible parce que bon, tu fais trop d'horaires et de toute façon, pour faire la pâte et tout ça, il faut un temps de repos, un temps de pause, un temps de refroidissement. Ça prend un peu de temps. C'est pour ça que les journées sont longues.
Est-ce que c'est dur de gérer la boulangerie?
Gérer, de toute façon, c'est toujours dire de gérer quelque chose. De toute façon, et la boulangerie, de toute façon, c'est un peu dire de gérer une boulangerie. Tu as des commandes à faire, tu as des représentants qui passent. Il faut bien les gérer. Il faut gérer tes commandes, il faut gérer tes personnels, il faut être toujours derrière et il faut être toujours présent.
Comment fabriques-tu le pain?
Le pain, bon, on fabrique le pain. Le pain, c'est bon. Le pain, il faut que ça soit bien fabriqué, de façon bien fait, c'est-à-dire il faut prendre son temps pour faire ça, parce que c'est pas les pains, de toute façon, c'est la farine, la levure, l'eau, les sels, l'améliorant, mais tout ça, quand tu prépares ça, de toute façon, il faut laisser après le temps des pousses, il faut le temps de refroidissement, c'est ça qui prend du temps, de toute façon. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit le temps, il soit respecté et tout ça, comme ça, tu auras un bon temps avant de mettre au four, il faut que la pâte, elle soit bien refroidie.
Combien de temps ça dure?
Combien de temps ça dure? Préparer la pâte, c'est pas long à préparer. Par exemple, quand tu vas préparer, par exemple, ta pâte, la farine, la levure, les sels et l'eau et tout ça, ça prend pas du temps, ça, pour les préparer. Quand tu prépares une baguette, par exemple, il faut compter 20 minutes. Mais les plus longs, c'est après. Parce qu'après, il faut peser, il faut laisser la pâte repousser. Après, il faut les façonner, il faut les mettre au frais. C'est ça qui est long.
Comment fais-tu quand il y a beaucoup de clients?
Quand il y a beaucoup de clients, de toute façon, je ne suis pas tout seul. De toute façon, on est une équipe, on travaille ensemble, on travaille la main dans la main. C'est ça, on se donne un coup de main, on s'organise et tout va bien, quoi.
Les clients achètent quoi en général?
Les clients, en général, quand ils rentrent dans une boulangerie, de toute façon, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter la baguette, les pains spéciaux, ils vont acheter des croissants, des viennoiseries. Et il y en a qui achètent des sandwichs, des boissons et ainsi de suite, de toute façon. Un peu de tout.
Est-ce que ton service est long?
Le service est long. Oui, le service est long. Le service est long, pourquoi? Parce que, quand on prépare les pains, de toute façon, C'est pas la préparation qui est un peu longue, mais là, c'est le temps d'attente après. Il faut les temps des pousses, les temps des refroidissements. Après, il y a un temps de cuisson. C'est ça qui est long. C'est pas la préparation.
Dans quelles conditions travailles-tu?
On travaille dans des bonnes conditions. On est bien organisé. De toute façon, il faut que ça soit. On est bien organisé, on est en place. C'est ça qui nous donne un coup de main et c'est ça qui nous pousse à pas avoir beaucoup de temps à perdre, quoi.
Est-ce que tu as fait un travail avant celui-là?
Oui, avant celui-là, de toute façon, j'étais dans les restaurations, de toute façon. Bon, c'est presque c'est la même famille, de toute façon. Bon, quand tu fais la restauration, tu connais tout ce qui est salé, tout ce qui est. Bon, tu connais, même si tu fais de la pâte, mais bon, la pâte, c'est pas la pâte des baguettes, c'est la pâte des gâteaux, trucs comme ça. Mais c'est un coup de pouce, ça.
Est-ce que tu penses gagner assez pour ton travail?
Oui, ça va, je me plains pas. De toute façon, moi, tant que je gagne de quoi nourrir ma famille, je suis content.
Combien exactement?
Combien exactement? De toute façon, je peux pas te dire combien j'ai gagné. Exactement, de toute façon, ça dépend les jours et ça dépend les mois. Il y a des mois qui sont très difficiles, il y a des mois qui ça va, quoi.
Est-ce qu'il faut des qualités nécessaires?
Oui, il faut de la qualité nécessaire. De toute façon, que ce soit pour la personne qui prépare, il faut que ce soit quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît dans la baguette et tout ça. Et la qualité aussi, il faut que ça soit dans les produits. Il faut avoir un bon produit, un bon boulanger. Et là, tu peux sortir une bonne baguette.
Aimes-tu ton travail?
Bien sûr que j'aime mon travail, sinon je ne le ferai pas de toute façon.
Pourquoi?
Pourquoi j'aime mon travail? Bah, j'aime mon travail parce que j'aime faire les pains. Parce que bon, quand on fait, par exemple, quand on travaille dans une boulangerie, de toute façon, on sait bien qu'on fait quelque chose de bien. On fait quelque chose pour nourrir les gens. On sait bien qu'on a des clients qui vont venir, qu'il y a des clients, par exemple, qui vont acheter. Il y a des clients qui trouvent des choses qui sont bien faites, tout ça. Ils vont te féliciter, ils vont t'encourager, de toute façon. Et ça, c'est vraiment bien. Ça peut te donner des ailes, ça peut te donner des idées pour faire autre chose, pour à chaque fois, de toute façon, essayer, par exemple, de trouver une autre façon de faire, de faire bien les choses et respecter le temps de tout, quoi.
Merci de nous avoir consacré un petit peu de temps. Au revoir.
Je vous en prie à votre service, de toute façon. Merci à vous et bonne continuation.
Ouvrez grand vos oreilles et trouvez le son mystère.
Bonjour, c'est Mathis et Gabin pour vous présenter le son de mystère de la semaine.
Gabin, y a-t-il des gens qui ont répondu une bonne réponse?
Oui, il y a Aziza Elkawa et personne d'autre.
Bravo à elle.
Le son de la semaine dernière était le bruit d'un cartable qu'on ferme.
Le son de cette semaine est...
Envoyez-nous vos propositions à l'adresse suivante son-mystère.cm2@laposte.net.
Au revoir et à bientôt sur Arte Cool.
Retenez bien ce nom.